Bonjour et bienvenue sur le podcast Transcendo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Julie Desgagnés avec moi pour discuter. C'est vraiment le fun parce que j'ai fait une annonce sur Instagram, puis tu t'as juste levé la main en disant « Hey, je peux-tu venir? » J'ai dit « Ah ouais, yes! » Parce que souvent, ben, il y a comme une récurrence de gens qu'on entend sur les podcasts. Hein? On s'entend, on a les grandes gueules du Québec. Je nous appelle le même, mais tu sais, on entend toujours à peu près les mêmes gens dans la francophonie québécoise. Et ça fait du bien d'entendre des gens qui sont moins dans l'univers du podcast, mais tout aussi, ouais, tout aussi entrepreneurs, tout aussi des belles personnes. Fait que, bref, j'avais très, très hâte à notre enregistrement dans cette magnifique pleine lune.
Oui, j'ai mis mon chandail de pleine lune.
Pour préciser qu'on est au mois de décembre, on est dans la pleine lune du Gémeaux, c'est ça, aujourd'hui?
Oui. Ouais.
On enregistre ça en décembre, ça va être présenté début février, mais juste pour vous mettre un peu dans l'énergie dans laquelle on est, pour que vous compreniez après quand vous allez l'écouter. Okay. Bref, j'avais tellement hâte de te jaser. Et comme je t'ai dit, je ne te poserai pas la question malaisante de qui es-tu, que fais-tu dans la vie. Les gens, s'ils veulent savoir, ils iront voir les notes du podcast, ils iront te stalker tout simplement ton Parfait. Instagram. Alors là, je dis aux gens, allez sur Instagram, allez regarder. Nous, on va vraiment avoir une discussion parce que je trouve que c'est tellement complexe de se rentrer dans une case ou de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, surtout qu'on est dans un moment où tout bouge. Hein? C'est un peu ça qu'on parlait au niveau énergétique, c'est assez intense en ce moment. Comment ça va énergétiquement, toi?
Ça va. L'énergie est tellement haute. Je suis fébrile, je suis excitée. Tu parlais que tu t'étais réveillée tôt ce matin. Moi aussi. J'aurais envie aujourd'hui d'être 8 personnes en même temps.
C'est parfait.
C'est correct. C'est l'effet de la pleine lune. Puis pouvoir échanger, parler, discuter. Puis, tu sais, là, notre discussion va être entendue. Fait que là, c'est encore plus excitant.
J'adore ça. Puis, oui, c'est ça. C'est vraiment, on dirait qu'il y a une fébrilité. Surtout, là, il pleut à si haut. Il y a eu des grands vents. La température est vraiment bizarre pour un mois de décembre. Puis, on le ressent dans toute notre être. Puis, j'avais le goût de te demander, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens de même le matin? Toute fébrile, tout, tu sais, on a tous nos trucs, mais c'est le fun d'entendre un peu les méthodes et les trucs des autres. Tu sais, pas nécessairement, je veux pas la petite méthode de Pablum, mais comment tu t'es, tu crées un environnement pour être bien malgré tout, tu sais, malgré la peur, malgré la fébrilité?
Ben, je sais pas, je suis juste comme contente. C'est un beau sentiment, tu sais, de sentir cette énergie-là. Quand elle est là, elle est présente. Fait que c'est juste la sentir d'abord, elle est là. Je suis heureuse, il est 3h59, c'est pas grave. C'est la pleine lune, mais c'est vraiment de se ramener à la sensation du corps.
Ouais.
Puis là, après ça, moi, j'ai la tête qui part en créativité. Puis là, j'ai dit, OK, tu sais, je suis créative ce matin. Je laisse aller les idées, mais je les note nulle part. Je les laisse juste partir pour plus tard. Aller peut-être les rechercher, mais je me permets cet espace-là de laisser aller le cerveau à penser. Puis des fois, je m'énerve un peu, là, je suis comme, ouais, mais là, j'ai telle tâche. Je dis, non, là, c'est pas le moment de travailler, c'est pas le moment de gérer ta maison. Mais ouais, c'est de la conscience.
Vraiment, vraiment. Ouais. Puis j'avais le goût juste qu'on rentre un peu parce que l'épisode de podcast, j'aime ça aussi avoir un peu le parcours, tu sais.
Mm-hmm.
Là, je trouve beau, c'est que je connais pas ton parcours.
Donc
là, moi, je vais l'apprendre en même temps que les auditeurs.
Ouais.
Ça, c'est le fun parce qu'on trouve des pépites d'or beaucoup. Bien, parce que ça me permet aussi d'être vraiment dans une espèce d'écoute différente de gens que j'interviewe, que je connais. Pas que j'aime pas ça interviewer mes amis, mais... Mais reste que c'est toujours le fun d'apprendre à connaître. J'ai l'impression que je vais pouvoir vraiment amener une espèce d'autre angle par rapport à ce que les auditeurs sont habitués, en fait, d'entendre. Parce que c'est un parcours très différent là, de tout le monde.
Ouais, il est différent, il est unique, puis en même temps, il ressemble à d'autres personnes sur certains points, certains aspects. Okay, ouais.
Tu peux commencer où tu veux.
Et je ne sais même pas par où commencer. Non, mais parcours différent. La première chose que j'ai envie de dire, c'est moi, j'ai grandi comme enfant unique. Donc, petite fille seule au lac Saint-Jean, mais vraiment d'un village éloigné, tu sais, du lac Saint-Jean. Puis, j'ai grandi comme petite fille choyée, tu sais, bien accompagnée par mes parents, puis bien encadrée par le système. Tu es important, tu vas aller à l'école, tu vas faire les études. Fait que c'était génial. J'ai toujours été encouragée par mes parents. Puis, tu sais, moi, j'aimais parler. Je dis ça, mais j'étais vraiment un enfant timide. J'étais une adolescente timide, j'étais un enfant timide, je longeais les murs à l'école. Quand le professeur, il disait, c'est comme, Julie, peux-tu répondre à la question? C'est comme 200 battements à minute, rouge tomate. Puis là, le monde disait, ah, Julie, rouge tomate.
Non!
Encore! tu sais, je viens quand même, tu sais, de petite fille unique qui était... J'ai eu un beau parcours, mais j'étais super gênée. Puis, à m'amener à l'adolescence, j'aimais parler, j'aimais partager. J'avais dit à mes parents, je vais aller en communication.
Okay. Ouais.
Mais finalement, j'ai étudié en sciences de la santé.
Oui, allé complètement dans l'autre spectre.
Dans l'autre spectre. Puis, tu sais, mon père, il m'avait dit à l'époque, ben va étudier en sciences, puis tu pourras toujours utiliser ton habileté à parler pour transmettre ce que tu vas savoir en sciences. Ma santé.
OK.
J'ai fait, ah, nice, OK, c'est bon. Fait que, j'ai étudié en kinésiologie, en fait. En kinésiologie, puis dans mon parcours, tu sais, je sais pas, tu sais, là, toujours avoir les résultats, réussir, ça m'a toujours valorisée, puis j'étais bien là-dedans. J'ai travaillé, j'avais un emploi. Puis pendant plusieurs années, c'était parfait. J'étais vraiment heureuse. Puis quand je regarde en arrière, c'était correct. C'était vraiment bien, tu sais. Puis l'entrepreneuriat était là, toujours là. Et moi, j'étais la fille qui faisait les comités, qui faisait les balles, qui startait les projets. Tu sais, la fibre de créer était là. Puis c'est drôle parce qu'à l'époque, je disais que c'était du leadership. Oui. Puis maintenant, je regarde en arrière puis je dis non, j'étais juste créative.
Mais c'est parce que le dogme d'être créatif, on croit que c'est juste de l'art. Tu fais de l'art plastique.
Ouais.
Tu comprends?
Mm-hmm.
C'est tout. Mais non! Être créatif, c'est dans toutes les sphères de notre vie.
Puis je me suis sentie
pas. Le leadership, ouais. C'est rien.
Okay. Ah, c'est un mot. C'est un mot pour catégoriser. Puis moi, j'ai aucun rythme dans la peau, que ce soit le danser, le chanter, l'instrument de musique. Tu sais, mes plus beaux dessins, j'en ai pas. C'est impossible. Puis j'ai toujours été imposteur quand on parlait de créativité puis d'artiste. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai développé en devenant femme, en devenant adulte, en voyant l'autre définition de la créativité. Dans le parcours, j'ai vécu une première année de ma vie professionnelle à Montréal, en fait à Laval. J'étais vraiment triste, je m'ennuyais de ma famille. Puis j'ai dit, tiens, je repars dans la région. Puis j'ai déjà fait un premier saut que j'ai trouvé courageux à l'époque. Puis il faut le dire, j'ai quitté mon emploi, puis je suis revenue au Lac-Saint-Jean. Chez mes parents, j'avais pas de job.
Mm-hmm.
Ouais, j'ai été 10 jours sans job. Là. Mais
quand même, ça prend du guts. Peu de gens sont prêts à dire, je vais quitter quelque chose sans savoir ce qui s'en vient.
Mm-hmm.
Très peu de gens sont capables de faire ça. On a tous besoin de cette sécurité-là pour nous permettre de lâcher.
Ouais. Mais j'avais c'est ça. Puis c'était un support quand même qui a été offert par ma famille, par mes parents qui ont dit, on te soutient dans ça. Viens-t'en, puis on verra. Ouais. Fait que le support a été génial. Puis je me suis replacée très rapidement en kinésiologie, mais commencé à travailler à mon compte, j'ai lancé mon entreprise, puis là, est devenue une Julie, une Julie, mon Dieu, tellement une tornade, il y a des gens qui m'appelaient la tornade du Lac-Saint-Jean. T'es partout, t'es dans les CA de chambre de commerce, je donnais 25 cours de groupe par semaine, plus la clientèle privée.
Oh my God, c'est beaucoup, là. Je sais pas si les gens comprennent c'est combien d'heures, là. Mais une heure de cours de groupe, là, c'est pas une heure de temps. Là.
Non.
C'est ça.
Puis c'était pas juste une ville. C'était plusieurs villes. J'avais étendu mon
double.
Territoire. Ouais. C'était vraiment une énergie qui était de feu, début de la vingtaine, qui était vraiment intense. Puis tu sais, quand je regarde en arrière, je fais, mais voyons donc. Puis je me suis rendu compte que j'étais là-dedans, j'étais dans une spirale. Tu sais, on parle souvent, tu sais, du masculin toxique, la performance, la réussite, la comparaison, être de l'avant. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait, l'entreprise que j'ai créée, tu sais, Julie Desgagnés, la kinésiologue, c'était vraiment cool. Et déjà, fois, je regarde la personne que j'étais. Fait que là, je me dis, ah, tu sais, toute la douceur, la féminité. Puis le monde dit, ah, toi, je te vois pas avec un enfant. Tu sais, j'ai tellement entendu dire ça souvent, mais
oh,
toi, t'auras pas d'enfant, là.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que j'étais go, je faisais dans le tas, j'étais dans le côté féminin, la douceur, la compassion, c'était pas des j'avais jamais exploité ça.
Wow.
À l'époque, j'avais jamais exploité ça. C'était pas bon, c'était pas mal. T'en parles souvent dans les podcasts. C'était pas bon, c'était pas mal. C'était ça à l'époque. Mais il y a vraiment eu un passage qui s'est fait dans la trentaine vers, tu sais, le ralentissement et la douceur. Mais une personne qui est comme elle, t'as tellement le feu comme moi, puis qui a tellement de l'énergie, c'est ça. Ça a été beaucoup de temps à l'intérieur de moi, tu sais, accepter ce vide-là, accepter l'inconnu, passer d'une étape à l'autre sans savoir ce qui s'en va après. Parce que j'ai fermé ma clinique de kinésiologie lors de ma première grossesse.
Quand même, hein?
Ouais, j'ai fermé de même. Pouf, wow. Je ferme. J'étais à la mi-grossesse, puis mon chum, quand il est arrivé dans ma vie, il avait déjà un enfant.
Okay.
Puis là, il restait dans une autre ville, c'était une heure de route de la maison avec eux vers ma clinique. Puis là, j'ai dit à ma mère un matin, j'ai dit « Ouais, mais je vois même pas mon beau-fils parce que je travaille. Comment je vais voir mes enfants à moi? »
Ça t'a fait 1 plus 1 égale 2. Mm. Je veux voir mes enfants. Ouais. En ce moment, j'ai pas l'espace pour même voir l'enfant de mon chum.
Ouais.
T'imagines?
Puis, ça a été intense de fermer. C'était mon seul gain, c'était mon revenu, c'était mon nom, mon entreprise de travailleurs autonomes. J'avais 2 employés avec moi en plus.
Wow.
Je couvrais, tu sais, beaucoup d'activités, tu sais, dans mon secteur à l'époque. Ça a été vraiment un choix personnel. Ça a été, mon Dieu, c'était le premier choix intense et le plus beau, je me dis, qui mène à ce que je fais en ce moment, ce que je suis. Puis je dis en ce moment parce que dans un an, ça peut être différent.
Tu fais des sauts, des vraiment grands sauts dans le vide. Là. Et c'est beau parce que la grossesse, peu de gens écoutent leurs besoins de nidification.
Mm-hmm.
Peu de gens l'écoutent. Hein? Et là, d'habitude, c'est ça, à la mi-grossesse, hein, ça arrive. Fait que cette décision-là ne sortait pas de nulle part.
Mm-hmm.
Puis c'est vraiment de faire « Oh, oh, je comprends mon rythme, mais là, il y a un autre rythme qui arrive. Il y a une nouvelle.
Ouais.
Il y a une nouvelle personne qui apparaît.
Ouais.
Et c'est tellement pas... C'est comme si tu dis « Mère », puis il faut que tu reviennes comme avant.
Oh.
Tu finis ton congé de maternité. Puis il faut que tu reçois tu sois la même personne qu'avant, mais mm-hmm. on oublie la beauté de l'ouverture du portail de la maternité.
Exact.
Moi, j'appelle ça.
Mais
parce que c'est un portail infini, là.
Oui. Puis tu sais, tu nommes ce portail-là, puis je n'ai pas été capable d'en prendre conscience, moi, lors de mon premier enfantement. C'était, je voulais revenir, la Julie d'avant. Mais là, à ce moment-là, là, tu sais, je me pitchais dans les murs, j'ai juste pogné des vitres, là. Mm-hmm. Ça faisait bang, ça me faisait aïe, aïe. Puis j'étais là, pourquoi ça marche pas? Puis mm-hmm. je voulais donc. Puis reste que mon premier enfant est arrivé, tu sais, je l'ai poussé pendant 12 heures. Finalement, ça a fini en césarienne.
Oh mon Dieu, Seigneur!
Puis c'est ça me détruit le corps.
Ben, c'est sûr. 12 heures.
Ben, je l'ai pas poussé. Je n'ai pas été en poussée active pendant 12 heures, mais contraction régulière minuit, puis à 14 heures le lendemain, j'avais la césarienne.
Ah, oh, mon, tu devais être épuisée et le bébé aussi.
Oui, c'est ça. Ça a été une décision pour le bébé d'abord. Oui. Puis est-ce que je me rappelle, à 6h30 du matin, le médecin était là, puis c'était comme t'es là, là, t'es à 10, faut que ton enfant sorte. Moi, ouais, mais j'ai... mon enfant veut pas sortir.
Désolée.
Mais...
physiquement, c'est impossible.
Hey, puis je me rappelle d'un moment, ouais, mais c'est pas, j'ai envie de pousser. Puis l'infirmière, elle dit, ouais, mais parce que ton équipe est en train de manger, tu peux pas pousser maintenant. Ouais, mais
ah, c'est super comme un...
Oh, j'ai envie de pousser maintenant, là.
Ben, oui,
pousse. Mon chum qui me regarde. Mais pousse, je suis là, moi.
Ben ouais, moi, l'attraper. C'est comme.
Franchement. Il n'a pas attrapé le premier, mais il a attrapé le deuxième.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bel accouchement.
Mais c'est. Ouais, puis c'est. C'est quoi, où je voulais en venir? Ah, mon corps a été détruit. Avec la kinésiologue, dans 25 heures de groupe, le cours de groupe, c'était fini, là. Ça pouvait pas. Puis ma propre réadaptation, puis j'avais pris cette décision-là, j'ai plein d'amis quand même dans le réseau de la santé physique. Il avait dit, Julie, concentre-toi sur ta réadaptation parce qu'on banalise la césarienne comme des enfantements faciles. Mais
c'est non. Ça que je voulais dire. La césarienne, c'est... On peut-tu en parler?
C'est 7 couches. On te coupe 7 couches.
C'est dégueulasse, OK? Puis on demande à la maman, après ça, de s'occuper seule d'un nouveau-né en ayant l'opération la plus violente sur le corps, quand normalement, ces gens-là, tu sais, mettons un monsieur, madame, tout le monde, là, ils seraient alités, là, tout le monde serait à leur chevet pendant au moins un mois ou deux.
Trois, six semaines.
Ouais.
Et avec le papier du médecin puis d'assurance qui vient avec.
Oui, exactement. Mais là, pendant ce temps-là, toi, il faut que tu ne dormes pas puis tu allaites.
Ouais. Ben,
c'est quand... sérieux, c'est... Et on banalise ça. Ah, oh, une césarienne, tu peux juste pas prendre la coquille pendant 6 semaines. OK. C'est un petit peu plus intense que ça. Moi, j'avais de mes amis qui me disaient, parce que mon premier, j'ai été provoquée, puis ils m'ont dit, est-ce qu'on te provoque ou tu veux une césarienne? Mm-hmm. J'ai dit, moi, donnez-moi tout ce que vous voulez, je ne veux pas de césarienne. Mm-hmm. Puis là, ils m'ont regardé, ils disaient, pourquoi? J'étais là, moi, je sais c'est quoi. Ma mère a vécu une césarienne à moi, puis elle m'a dit, le plus loin que tu peux te tenir de ça. Mm-hmm. Puis à un moment donné, t'es obligé, c'est médicalement.
Ouais.
Pour le bébé, c'est correct, ça.
Ouais.
Mais il ne faut pas sous-estimer le rétablissement.
Oui, exactement. Oh, c'est quelque chose qui n'est pas parlé, qui n'est pas très connu. Il y a très peu d'intervenants, quand même, qui vont accompagner une femme dans le rétablissement d'une césarienne, parce que c'est un mix de tellement de choses, allant de l'âme jusqu'à la physiothérapie simple du plancher pelvien. Il y a un chemin, tu sais, c'est 7 couches de peau, mais je pense qu'il y a comme, tu sais, il y a 7 couches d'intervention. Je dis ça de même, là, mais c'est très gros. C'est gros, puis c'est un portail. C'est ça, c'est un portail de venir mère. Donc, à travers ça, tu as ton cocktail hormonal. C'est intense, c'est la nouvelle vie. Puis tu penses déjà à ton... Moi, j'étais travailleur autonome, fait je pensais déjà à mon retour au travail. Puis ça a été une discussion claire avec mon chum à l'époque. Et lui, il me l'a dit, là, l'important, c'est toi, c'est ton corps, c'est notre enfant. On s'occupe de ça, puis tu feras ce que tu veux. Tu feras ce que tu veux, puis ça a toujours été clair entre nous deux qu'on faisait chacun ce qu'on voulait dans notre emploi du temps, tu sais. Donc, les portails ont été ouverts à deux moments. De façon très intense.
Yeah.
Ouais.
Et tu as eu, après ça, un accouchement naturel?
Oui.
À ton deuxième?
À mon deuxième. 18 mois et 3 semaines plus tard. Donc, pendant 9 mois...
Tu n'as pas respecté les règles.
Non!
Tu es supposé être 2 ans. Ah, ça, j'aime ça! Vous avez le droit, les femmes, d'accoucher naturellement après avoir eu une césarienne.
Oui, puis ça a été, tu sais, on savait qu'on les voulait. Franchement, tu sais, il y a 6 ans de plus que moi. C'était son 3e enfant. Là, il a dit, tu sais, Julie, je suis passée 40, là.
Oui.
Et que, tu sais, je me remets aux couches une fois parce que c'est ça, c'est notre vie. On est une famille, mais je le ferai pas 2 fois. Puis moi, j'étais bien d'accord avec ça, avoir 2 enfants rapprochés. Il y avait tellement de changements. Et moi, j'étais tellement en changement entre les 2 grossesses. Quand Laurent est arrivé dans ma vie, il a changé la Julie performante pour toute cette énergie-là, la transformer ailleurs. Alors, ça a été... Tu sais, moi, j'ai arrêté de travailler, carrément. Mm-hmm. J'ai arrêté de travailler, puis je me suis mis au service de l'entreprise de mon chum. Que, bon, finalement, je suis devenue co-actionnaire avec lui. ça a été d'autres choses. Mais le fait de ne pas travailler m'a permis vraiment d'avoir l'espace pour choisir ce que mon cœur me disait. Ah, puis, tu sais, dans le postnatal, j'ai connu le human design, je connaissais pas ça. Fait que, tu sais, avec Tamara.
Oui!
Yeah. Super bien accompagnée, ça, ça a été vraiment bon pour moi de me respecter.
Et qui es-tu en human design? Ça, c'est le fun.
Je suis une manifestor generator.
C'était sûr.
Mais ouais.
Ouais. T'es quelle autorité?
Sacrée.
Sacrale?
Ouais, sacrale.
Ah, oh, wow, c'est hot, fait que t'as de l'énergie.
Ouais, puis tu sais, l'énergie, là, justement, de la créativité, l'énergie sacrale, puis très... C'est dans le manifestor generator, ce qui est bien, c'est le manifesting, puis c'est le generator aussi, puis c'est pas un mix, c'est comme flou un peu, comment
oui!
ça se traduit. Le fameux gut feeling, tu sais, je comprends rien ce que tu dis, mais pour moi, tu sais, tu m'as dit comment tu fais le matin quand tu as cette énergie-là, ben, tu sais, c'est ça, c'est me connecter à mon gut feeling, mais j'ai pas de mots pour ça, c'est la conscience.
C'est une pratique.
Pratique.
C'est vraiment une pratique, puis un nez, tu comprends comment toi... Parce que dire, c'est quoi ton gut feeling, là, t'es là, hein, je peux pas te le nommer.
Non.
C'est une sensation.
C'est une sensation, ouais, c'est se lever à matin, prendre la même boisson, son même matcha latte, puis faire, je le veux pas. Je veux de l'eau chaude avec la lavande, c'est ça.
Oui, exactement. Puis tes enfants, t'as-tu fait leur human design? C'est quoi?
Laurent, ben le premier, c'est un manifestor generator.
Parfait.
Puis le deuxième, c'est un generator.
Oh, wow! Toi, t'as de l'énergie chez vous, hein?
Ouais, puis mon chum et son fils, c'est deux projecteurs.
Oh my God! Heureusement que vous êtes là. OK.
Ah, heureusement que vous êtes là.
Oui, vous videz l'énergie des projecteurs. C'est vrai?
Ouais.
C'est rare qu'on ait beaucoup de projecteurs dans une famille.
OK. Fait que là, on est quasiment à moitié.
Oh, wow.
On est bien balancé. Puis avec nos cartes du ciel aussi sont vraiment spéciales. Là. Même moi, avec celle-là de mon beau-fils, je ne suis pas sa mère. Mais c'est vraiment intéressant de voir nos similitudes puis comment que lui puis moi, on vient s'imbriquer l'un dans l'autre. Là.
C'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard.
Non, c'est vraiment spécial. Ouais.
C'est comme, on a ouvert le portail de la première naissance.
Oui.
Ensuite, il y a eu l'espèce d'entre-deux où ben, tu es tombée quand même rapidement enceinte.
Oui.
Fait qu'il y a 9 mois, oui, exactement.
Oui, en 9 mois.
8 mois, 9 mois, oui. Fait que ça, c'est bien, tu as eu quand même un 9 mois. Puis... Est-ce que tu étais rétablie dans ton corps?
Ah oh, non, je n'étais pas rétablie du tout.
Okay.
Ben, du tout. Ouais. Quand même, là. Je
sais c'est quoi ton optimal. Fait que là, c'est sûr que pour toi, tu n'étais pas...
Non, c'est ça. Je n'étais pas revenue optimale. Mais j'étais rétablie sur plusieurs aspects. J'étais capable de marcher. J'étais capable de courir.
Oui, c'est ça.
Courir sans avoir une fuite urinaire. C'est pas la même chose que courir.
Tu as eu des problèmes de vessie?
Non, j'en ai pas eu. Mais tu sais, si je n'étais pas consciente, par exemple, tu viens d'avoir ton enfant les 3 premiers mois, si tu pars à la course ben vite ou que tu sautes en bas du divan, ben si tu ne tiens pas ton plancher pelvien, ça peut arriver une fuite. Fait que moi, j'étais dans ça, là. C'était comme ça arrivait si je ne me contractais pas. Ouais. Ben parce que...
Tu as vraiment pété ton plancher pelvien pendant 12 heures, là.
Ben oui, le pété, parce qu'en plus, moi, je
venais... Mais moi, c'est sûrement qu'il était mal aligné, fait qu'il forçait...
Ah, il était postérieur, mon enfant,
ah,
mais ça...
c'était terrible.
Personne ne me l'a dit qu'il était postérieur, là. Mon pauvre bébé, il n'était pas placé, puis... Mais je l'ai su après, parce qu'entre les deux grossesses, j'ai fait, je ne veux plus jamais revivre ça, parce que ça m'a tellement fait grandir, mais justement, j'ai tellement lu, j'ai suivi, tu sais, les formations, les Quantic Mama. J'ai été accompagnée par les doulas ici dans ma région. Puis je me suis tellement ouverte, j'ai dit là, je consommais, là, j'étais une geek, là, c'était lecture, c'était podcast, c'était formation en ligne. Je veux comprendre.
Pourquoi puis, ça s'est fini en césarienne?
Pour finalement comprendre qu'on a arrêté entre femmes de s'enseigner comment être femme, comment enfanter, comment. Puis ça a été une grande constatation. Fait que j'ai dit, bon, je vais l'apprendre. Puis ça a été merveilleux parce que quand même, tu sais, les 9 mois de grossesse, mais tu le sais pas, Julie, là, tu vas sûrement avoir une césarienne. Là.
Ah, mais tu vois, tout le monde te décourage.
Là, tu peux pas décider à l'avance là, que tu vas avoir un accouchement vaginal. Là. Ah, tu le sais pas.
Oui, tu peux. Quand tu connais les enseignements de Karine, quand tu es maman, tu peux. Vraiment. C'est sûr qu'il y a des exceptions, OK? Oui, peut-être qu'il y a un 1 ou 2 % là, qui va finir en césarienne parce que des fois, il y a des trucs qu'on ne contrôle pas dans la vie. Sauf que quand tu as toutes ces connaissances-là, si toutes les femmes qui enfantaient avaient ces connaissances, et là que ça changerait la vie des gens.
Des connaissances puis des choix conscients parce que oui, j'ai pris une épidurale pour le deuxième, mais quand ça a fait 12 heures que j'étais en travail, j'ai dit I need to rest. J'ai besoin de repos. Je veux mettre cet enfant au monde de façon vaginale. Là, j'ai besoin de me reposer. Mais le travail était tellement avancé, justement, avec les enseignements de Quantique Maman, j'ai vu que mon, tu sais, j'ai senti où ce que mon enfant était.
Ça avait des étapes.
Fait que là, je ne bloquerai pas. Certaines étapes qui ont été bloquées la première fois. Là, je dis ça, mais je le savais.
Oui, puis c'est beau ce que tu dis. C'est pas parce que tu décides d'avoir un enfantement avec des connaissances très, très libertines, si on va dire ça, que tu n'as pas le droit d'utiliser la science.
Ouais.
Et ça, Karine le dit toujours de Quantique Maman, c'est entre science et sacré.
Ouais.
Tu peux avoir une péridurale, mais tu as besoin de savoir c'est quoi les étapes. Pour
exact.
Que ton mental soit capable d'accompagner ton cœur.
Exact. Ben,
OK? Ouais. Parce qu'un nez, il faut qu'il y ait une connexion, là. Parce
c'est
que
ça.
Sinon, tu vas te décourager. C'est vraiment ça, hein? C'est vraiment du mindset, là, l'accouchement, je m'excuse, mais c'est tout se passe dans la tête presque.
Ouais.
Tu sais, les étapes, là.
Mais
si
ça,
tu
c'est...
les connais pas, ben, tu sais pas où tu t'en vas.
Ben
là, tu te fais juste barouetter.
Ah, puis
la pas les coups de pelle.
C'est moi ce qu'on m'avait dit, c'est une vague. Une contraction, c'est une vague. Moi, là, la vague, là, la seule façon que je la voyais, c'est que je suis le bord de la plage, à la vague d'en face, puis je suis pas capable de me relever. La première fois, c'est la seule...
décourageant?
Ben, c'était juste ça. Puis là, m'amener au deuxième, j'ai allumé. J'ai dit, j'ai pas la vague d'en face. Je suis dans l'eau, puis je saute par-dessus. Hey, c'est pas la même vague, là.
C'est tellement beau, mais on n'est pas préparé à ça.
Ben, non,
c'est
parce
que
ben, moi, j'étais préparée à la vague. Imagine-toi une vague. J'étouffe.
Tu te fais écrapoutir par les gros breakers, là, tu sais, à Hawaii, là.
Oui.
Et après ça, tu ramasses tout le sable.
Oui, il se pitche dans le fond, puis tu ramasses du sable dans...
La laveuse, là.
Et ce qui a été vraiment merveilleux dans tout ce processus-là, c'est, bon, moi, j'ai un éveil. Là, j'ai un éveil. Là, je suis comme... Je t'enthousiasme. Là, je lis, je consomme. Puis, tu sais, je consomme. Je vais chercher du savoir. Je vais en chercher un peu partout. J'ai Joé, j'ai ma doula qui est avec moi. J'ai mon conjoint qui est dans toutes ces rencontres-là. Puis qui est là. Ah ouais. Puis que lui, tu sais, il tripe, là. Puis il embarque autant que moi, là.
Ça fait toute la différence.
Moi,
là, j'ai un papa différent.
Oui.
le quatrième enfant, c'est un papa différent. Là, il me dit, je veux venir aux rencontres avec la sage-femme. Là, moi, je le regarde en le jugeant, OK? Ma face de bitch, en disant, tu vas venir passer 2 heures avec la sage-femme à toutes les 6 semaines, réellement? Puis, mais c'est extraordinaire.
Ouais.
Mais parce que moi, j'ai jamais eu... C'était pas ça avant. Fait que j'accouchais toute seule. C'est juste que j'ai un gros caractère de cochon, fait que j'étais capable d'accoucher toute seule.
J'avais cette volonté-là. Mais tu sais, des fois, on est
tellement fort.
Ouais.
Mais là, de vivre un accouchement, c'est ça, avec un homme qui te soutient.
Ouais.
Oh my God!
Ouais.
C'est extraordinaire.
C'est sûr.
J'ai hâte d'accoucher. D'habitude, c'est j'avais peur d'accoucher. Là, j'ai hâte.
Ah, c'est puissant.
Ah oui! Fait que là, ton chum, il te supportait, il te soutenait là-dedans. Mais c'est ça le plus important. Fait que tous les autres commentaires.
Ouais, ben c'est ça qu'on se réussit à toujours se recréer, à revenir sur nous. Puis tu sais, la communication entre nous était toujours très importante de dire, ben toi, comment tu vois ça? T'es-tu là aussi? Mais tu sais, ça partait tout le temps de moi. Puis tu sais, des fois, là, je suis une vague émotive. Là, puis là, je suis pris, je suis fru, j'ai de la peur. Puis Ah, puis là, je crie, je graphique les murs, mais tu sais, j'ai toujours besoin maintenant, tu sais, j'ai besoin de revenir dans mon cœur. Tu sais, j'ai besoin de, tu sais, de revenir dans mes sensations à moi pour plus être influencée par l'extérieur.
Oui.
Parce que c'est, mais c'est une habileté de le développer.
Qu'on n'a pas appris. On n'a pas été conditionné à ça, je peux te dire. Hein? On a été conditionné à plein d'affaires, sauf revenir à soi,
ouais.
Revenir à son cœur.
Mm.
Ouais. En fait, ton deuxième enfantement, ça a été ça.
Ouais,
ça a été ça... vraiment l'ouverture du portail de « je reviens à moi ».
Oui, « je reviens à moi », puis on avait des... on ne savait pas le sexe. Ah, j'étais hors norme. Déjà, là, c'est un enfant au niveau des dates de production.
Ben, il y en a que c'est de même. Hein,
on a une compagnie de production vidéo, hein, fait que c'est production. Mais les dates de conception,
ouais.
C'était flou. Ovulation, conception, c'était un peu flou. Fait que déjà, tu sais, le fameux 18 mois, 3 semaines, là, j'étais avec les sages-femmes. Puis, tu sais, ils m'écoutaient vraiment beaucoup, ils me laissaient beaucoup d'espace, tu sais, de décider finalement.
Ouais.
Puis, je l'ai eu à 41,4. J'ai refusé beaucoup de rendez-vous, de déclenchement, pré-déclenchement, de manœuvre. Donc, c'était toujours mon choix. La sage-femme faisait son travail, l'hôpital m'appelait, moi je refusais. Mais ça a été... des fois, j'étais stressée, hein, j'étais là, ouais, mais ils disent que... Ah, oh, non, c'est pas ils disent, c'est moi.
Reviens.
Ouais, mon enfant. C'est ouais, j'ai défié beaucoup de normes à l'époque.
Quand même, hein?
Ouais.
Parce que souvent, rendu à 41 semaines, c'est comme un no-brainer. Tout le monde s'en va se faire provoquer, tu sais.
Ouais, et puis tu sais, tu parlais des médias sociaux, que tu sais, toi, tu souhaites vraiment te déconnecter. Puis nous, c'est à partir de 39 semaines que mon chum a pris mon téléphone. Il me l'a enlevé. Il a écrit aux gens de notre entourage, toute communication passera par moi pour les prochaines semaines.
C'est quoi ça? C'est le vrai rôle du masculin sacré?
Vraiment.
Ceci, les femmes, c'est un masculin sacré. Je protège mon cocon.
Lui, il s'appelait
Je protège ma famille.
Il s'auto-disait, je suis le gardien du Bifrost.
Non, c'est ça. Comme, là, lâchez-la, là, hein? Mm-hmm. Sa job, c'est d'accoucher. C'est assez pour son corps.
C'est ça. Puis là, il attendait mes corps. Il attendait qu'on appelle les grands-parents. Oui, on appelle les grands-parents. Puis là, finalement, bon, on va les ramener à la maison. C'est pas aujourd'hui. Mais ouais, il était vraiment dans le masculin sacré, ouais. Il l'incarne, puis il se...
C'est rare, hein? Mais c'est correct. C'est parfait qu'ils ne savent pas. C'est juste qu'on est tellement habitué d'avoir des hommes qui sont soit dans leur espèce de féminin toxique full émotionnel ou qui tombent dans un masculin toxique. Mais c'est vrai, hein?
Ouais.
Que c'est rare qu'on voit un homme qui fait comme « Non, non, là, je protège ma famille.
Mm-hmm. »
Il n'y a personne qui s'approche pour rester loin. C'est beau.
Mais je ne sais pas si c'est le fait d'avoir eu un premier enfant avant, de sa précédente relation. T'sais, des fois, je me dis, il a sûrement appris plein de choses à ce moment-là. J'étais pas là, fait que je ne peux pas le dire.
On ne sait pas.
J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il avait déjà, la protection, puis l'aspect familial. Parce que des fois, les gens me disaient, c'est ton chum qui veut avoir des enfants, c'est pas toi. Parce que lui, des enfants, il est proche, puis il joue avec eux. Puis, mes amis avaient des enfants, puis là, j'arrivais pour aller rencontrer le bébé. Puis, comme, puis le bon chum le prenait le bébé. Puis,
il y avait vraiment cette fibre-là.
Ouais.
Là.
Oh, wow. Ça m'a mis en confiance quand même, beaucoup.
C'est le fun d'avoir un petit papa compétent, tu sais. Ça aide la maman à se sentir compétente.
Oui.
C'est ça qui est beau.
Ouais.
C'est vraiment un support.
Mm-hmm.
Parce que c'est juste ça qu'on a besoin comme maman, c'est de se sentir supportée.
C'est vraiment.
Tu n'as rien besoin d'autre. Juste du support.
Du support. C'est tout.
Tout. Puis pourtant, on ne l'a jamais. Dans notre société.
Ouais, il est très, on dit souvent, non, mais tu sais, comme mère, si t'es fatiguée, demande de l'aide. Mais là, ça se commence à tu en as parlé, les filles de comme à la maison, ils en ont parlé aussi récemment cet automne. L'aide, elle n'est pas là. Donc, oui, une mère peut te demander de l'aide. Il faut faire ce travail-là. Puis c'est vrai que c'est dur de demander de l'aide, mais quand on demande de l'aide puis que l'aide n'est pas là, c'est comme « Ah! » Mais tu sais, j'en ai de l'aide. Mes parents sont là, tu sais, j'en ai, mais...
C'est qu'on est tellement dans des agendas de premier ministre, puis moi, je l'ai vécu beaucoup avec mon père. Un vendredi, j'ai dit « Là, je sais que tu es au chalet, tu peux-tu prendre les enfants? » Il me dit « Non, t'as pas planifié d'avance.
»
J'ai dit « Moi, si je te le demande là, c'est parce que je suis proche de mourir d'épuisement. » Tu sais, c'est comme « Venez m'aider, là. » Puis ça a été « Non, on va le planifier d'avance. Dans un mois, c'est-tu correct? » Non, c'est pas dans un mois que j'en ai besoin.
C'est ça.
C'est là.
C'est là.
Puis là, j'ai fait « OK, cette aide-là. » Puis ça n'a pas été méchant. Tu sais, c'est pas... Ça a juste fait « OK, toi, ton rôle, c'est pas dans de l'aide proximale. » On est dans ça de même. Et il faut trouver, puis je pense que comme femme, c'est ce qui est complexe au début, c'est trouver les personnes qui peuvent être là en aide proximale.
Oui.
Et c'est pas nécessairement notre famille.
Non.
Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est vraiment de qui tu peux demander, là, puis que là, en 5 minutes, t'es chez vous, là, puis qu'elle vient changer tout ton mood, là. C'est ça. Oui.
Des fois, ça dépend. Oui, mais on s'est éclaté.
Oui, les familles sont fragmentées.
Fragmentées.
Oui, vraiment, parce que on dirait que c'est ben, puis ça vient aussi du savoir, hein, d'enfanter. Ben, nos mères n'ont pas eu le savoir d'enfantement. Et on dirait que là, tout a fragmenté.
Ouais.
Et que nous, on est comme ces femmes-là qui vont ramener, puis c'est pas avec la prétention, là, mais c'est vraiment qu'on va ramener cette solidification-là.
Ouais.
Tu sais, je suis sûre, toi, quand tes enfants vont avoir des enfants, là...
Ben, moi, j'ai trois garçons, deux.
Oui, mais tu vas être là.
Je veux être là. Je l'ai dit à mon chum. J'aimerais ça accompagner, mais les femmes qui vont enfanter mes petits-enfants.
Et moi, je vais chez mon frère, j'ai trois enfants en jeune âge. Ma Romane avait 6 mois. Il venait, sa femme venait d'accoucher de leur seul bébé. J'étais arrivée chez eux, je me suis mis à plier du linge.
Ouais.
Là, il me regarde. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais exactement ce que j'aurais aimé ça que tout le monde fasse.
Mais
je dis, mais moi, j'ai pas besoin de parler, puis t'as pas de sentir coupable. Je dis, moi, je vais plier votre linge. Je sais c'est quoi. Là, il me regarde, il dit, ah, ouais.
Mais
c'est ça.
T'es des fois, je me dis, le meilleur conseil que t'es des fois, j'ai le goût de donner aux gens, ah, je vais passer ça sur les internets. Quel canon me conseillez-vous à donner à une jeune maman? Ben, d'abord, un nouveau bébé qui vient au monde, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est magique, c'est la vie. Mais il est venu au monde par une mère. Donc, la première chose, selon moi, c'est, tu sais, mes mères l'ont fait, ma mère puis ma belle-mère, lorsqu'elles sont venues, elles sont venues me voir, moi.
Mm-hmm.
La première chose qu'elles ont faite, c'est venir me voir, moi. Fait que le meilleur cadeau que tu peux offrir à une mère, c'est quand tu vas aller voir le bébé, de te diriger d'abord vers elle.
Oui.
Ouais. Puis si tu ne vois pas le bébé tout de suite, va plier son linge.
Ah oui. C'est comme, fais n'importe quelle tâche.
Ouais.
Tu vois qu'il y a de la vaisselle, là. Tu n'as même pas besoin de le demander. Fais-le.
Non. Fais la vaisselle, puis le linge.
Oui, passe à la balayeuse, lave les toilettes. Je te dis, c'est extraordinaire.
Et amène des fruits. Amène des fruits.
Ah, t'es obligé de venir avec la bouffe. Ça, moi, j'avais dit ça à ma famille. Vous venez chez nous, vous m'amenez des lunchs.
C'est sûr. Hey, puis moi, je reste
vous avez
dans
le droit de mettre vos
je coupères. Reste dans un rang. Ça prend 30 minutes pour me rendre chez nous dans un chemin de gravelle. Faut que t'arrives avec la bouffe.
La bouffe. Genre, puis de la bouffe que je peux mettre dans le congélateur, dans le frigo, puis que je vais être heureuse. Là. Mais ça, c'est tellement quelque chose qui a été oublié parce qu'avant, c'était un rituel hein, que les femmes restaient alitées pendant 40 jours.
Oui.
Puis que, tu sais, c'était beau, là. C'est pas si longtemps que ça, là. Hein?
Non, c'est vrai.
Il y a 50 ans, peut-être. Fait que c'est pas...
Peut-être un petit peu 60, plus, mais...
Oui, 60, oui. Tu sais, ma grand-mère, dans les années 50... Oui. Parce qu'en 58, quand ma mère est née, ma grand-mère était alitée, elle, pendant 40 jours.
OK.
Encore.
Mais il y avait un village autour de la femme.
Puis il y avait beaucoup d'aide. Tu sais, il y avait des filles au père, il y avait... Tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup, mais c'est ce qu'on est en train de recréer.
Oui, on le recrée, puis moi, je trouve ça positif parce qu'on le recrée, puis il y a plein de porteuses de ça, tu sais, de la sage-femme, des quantiques doulas qui sont là, vers les filles comme moi qui l'expérimentent puis qui en parlent.
Oui. Puis tu sais, moi, souvent, les gens sont là, « Oh mon Dieu, t'as un quatrième enfant. » Puis j'étais là, « Ah, moi, ça, c'est facile pour moi. Ah. » Là, je sais.
Ouais,
c'est
je
ça
sais.
La différence. Aha. Je sais. Il y a un savoir. Puis là, admettons, mes amis ici, ils me disent, « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? » Je dis, « Moi, là, si je te texte, je suis en train d'accoucher, là. Tu viens chez nous. Gère les enfants.
Ouais.
M'a accouché en haut, dans la salle de bain.
Mm-hmm.
Moi, je ne fais pas de bruit quand j'accouche. J'accouche super vite. Je suis chanceuse. Ça fait crissement mal. J'intériorise. J'accouche. Ça finit là. Parce qu'accoucher vite, là. Le
c'est
portail
intense.
Ouvre vite. OK?
Oui.
Fait que tu te pitcheras en bas du 10e étage, là. Tellement la douleur, c'est comme. C'est pas un accouchement sans douleur.
Non, il n'y a pas de vague, là. C'est un
non, pic. C'est comme.
Bim, bam. Ben,
on s'en va dans le pic, là, de la douleur. Mais, puis là, mon amie, elle me regarde, elle dit. Parce qu'elle, elle a eu deux césariennes, puis elle les regrette, tu sais. Puis, parce qu'il y a des femmes qui regrettent dans leur accouchement. Ça, il ne faut jamais enlever ce trauma-là.
Mm-hmm.
Donc, on a des belles discussions ensemble, puis elle me dit, mais c'est le plus beau cadeau que tu me ferais. J'étais là, parfait. Je vais te texter.
Ouais.
J'étais comme, tu viendras chez nous, tu feras la vaisselle, tu nourriras les enfants, c'est tout. Je dis, moi, je vais accoucher en haut avec mon chum, ça finit là, vous allez voir les sages-femmes, un nez arrivé. Puis un nez, ça va être... Tu sais, c'est comme... C'est juste ça qui va se passer, là. C'est
pas compliqué.
Ça devrait être un enfantement.
Mais on a... Les femmes ont peur.
Je sais.
Mais c'est de sortir, tu sais, comme d'une toile, puis là, tu sors de là, puis là, tu t'enlèves de ça, puis je peux y arriver.
Oui, parce que là, puis... moi, les gens sont comme... Ben là, t'es dans le fond d'un chemin privé. OK? Moi, je suis comme toi. Dans le fond du chemin privé, dans le fond de Magog, là, je suis presque rendue à Austin, mais je suis genre à 35 minutes de l'hôpital.
T'es proche. Fait
que là,
ouais.
Ouais, je suis proche. Puis là, tout le monde est comme, mais là, s'il y a quelque chose, je suis comme, t'aimes-tu mieux que j'accouche sur l'autoroute en me rendant ou chez nous? Parce que moi, j'accouche vite.
Ouais.
Je suis bien mieux d'accoucher chez nous que sur l'autoroute. Ben, oui. Parce que sais-tu de un quelle l'horreur ça va faire dans le char? Puis c'est pas un accouchement optimal, OK?
Non.
Puis mais... c'est pas agréable, tu sais? Fait que, mais ça me fait rire parce que tout le monde est comme, mais là, c'est dangereux, t'es loin de l'hôpital.
Ouais.
Ah, OK, mais... c'est intéressant.
Mais tu sais, moi, de... t'sais, au lac Saint-Jean, si t'es pas à Alma ou Robertval, ben t'es plus loin d'un hôpital.
Oui, ça finit là.
Tout simplement, ça finit là. Que tu restes dans un rang ou pas.
C'est vrai. C'est vrai, hein?
Parce que la première fois, j'étais à Héberville, sur la route principale, mais j'étais encore à 28 minutes de l'hôpital la plus proche.
Ouais. T'étais au centre-ville, tu sais.
Ouais, c'est ça.
C'est spécial à dire. Tu te dis, j'étais au centre-ville, mais j'étais à 28 minutes de l'hôpital.
C'est vrai, j'ai quand même une amie qui reste à Montréal, la rive sud, là, Boucherville et compagnie. Le gros boulevard, là, que...
Taschereau.
Taschereau a dit, j'ai senti toutes les lumières de Taschereau pendant que j'avais mon enfant. Elle dit, c'est mon beau-père qui conduisait. Elle dit, c'était ça a été intense pour elle de sentir toutes les lumières une après l'autre, d'être dans la voiture. Fait que, c'est ça. Fait que ça rentre à l'hôpital, même si t'es proche, puis je pense que c'était juste un parcours de 7 minutes en voiture, là. 7 minutes, 18 lumières. J'ai fait 28 minutes grand route, tu sais, c'est pas pareil.
Mais c'est différent, t'es moins arrêté. Surtout tu vas un petit peu plus vite, là. Tu sais, je fais une campagne, je pense pas que tu vas te faire arrêter.
Ouais, surtout à minuit le soir, là, c'était vraiment relax.
C'est pas la même chose. Oh,
wow. Mais, ouais, les peurs, mais tu sais, transcender ses peurs. Transcender ses peurs, ça se fait. C'est un long parcours parce que jusqu'à 7 minutes avant que Norbert vienne au monde, j'étais pas certaine encore que j'allais avoir de façon vaginale. J'étais pas sûre. Là. Fait que tu sais, les peurs, la force, rappeler qui on est, c'est jusqu'au bout, tu sais. Puis, tu sais, sincèrement, le moment où j'ai su qui naissait, c'est quand Philippe est là puis qu'il dit... « Julie, je le vois. »
Là, t'es là. OK.
Il a dit « Julie,
là, tu
je le vois.
»
là, J'étais comme, il est là. Il peut pas rentrer, là.
Et là, c'est tellement parfait.
Puis là, vois-tu, j'étais avec les sages-femmes. J'ai eu un transfert en hospitalier, qu'on appelle ça, je sais pas. Parce que j'avais dépassé les normes légales pour les sages-femmes de m'accompagner. De toute façon, j'ai demandé la péridurale. Fait, à ce moment-là, il y a eu le transfert. Puis, c'est ça, j'avais toute l'équipe médicale autour de moi. Puis, tu sais, Philippe me leur dit après, là, les filles, la gynécologue, les infirmières, tout le monde disait, on l'accompagne jusqu'au bout. Fait que là, quand est arrivé, que votre chef dit, la tête est là, je le vois. Moi, tout ce que je veux, c'est le sortir. Puis là, tout le monde font, mais non, attends, doux, la contraction, doux.
Fait que là... Et puis toi, c'était ton premier tunnel de feu, là.
Et là, je voulais...
être douce!
Puis, tu sais, toute cette équipe médicale-là a été d'une grande aide à ce moment-là, dans ce je sais pas combien de temps ça a duré, parce qu'il n'y a pas d'espace-temps hein, quand t'as un enfant.
Non, tu sais pas. Tu ne sais pas. T'es ailleurs.
Il fait noir, il fait jour.
Oui, c'est tout. C'est tout ce que tu peux dire. Puis ça, c'est si t'es assez conscient pour te souvenir de regarder dehors.
Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis le doux, là, il était là. OK, doux. Puis là, j'étais là. OK, mais là, c'est pas facile, tu sais, en ce moment. Puis ça a encore été le retour vers l'intérieur, le retour vers moi, pour me rendre compte qu'à ce moment-là, moi, j'étais complètement fragmentée. Le portail était tellement ouvert. Puis là, j'ai fait, j'ai plus d'intérieur. Je suis partout.
C'est tellement beau. Oh, wow!
Ouais.
Mais fait que t'as couché dans la douceur.
Intense. Douceur intense. Dans le support. Mais dans tu sais, comme une vie, un cycle, comme le cycle féminin est un cycle. Tu sais, tellement que ça a commencé dans la douceur chez nous. Moi, puis mon chum, pas d'enfant, un tire-lait, un ballon, nu. Que ça l'a. Tu sais, j'ai fait une heure de route dans l'auto de ma doula, à quatre pattes dans l'auto, à vomir dans un plan stainless.
Ah, oh mon Dieu, oui. Mais c'est nécessaire à vomir, ça, les femmes, vous ne savez pas, là. Mais le plus beau conseil que ma tante m'a dit, elle m'a dit, tu ne prends jamais de Gravol. Ils te disent, donne les Gravol à l'hôpital. Oui, parce que des fois, tu as mal au cœur, ils vont te donner du Gravol. Elle dit, moi, c'est ce qui a failli briser mon premier enfantement.
Mm.
Elle dit, parce qu'elle, quand elle vomissait, c'est que le travail était actif. Puis
ça fait descendre le bébé.
Exactement.
Ça fait descendre le bébé, c'est génial.
Moi, elle m'a toujours dit, « Vomis ta vie! » Fait que là, le premier bébé, à Gaspard, je me mets à vomir. Là, je me suis juste soumis de ça. Là, l'infirmière, elle me dit, « Tu veux-tu des Gravol? » « Non, merci! » Je continue à vomir. Je me suis bien vidée. J'ai accouché tellement rapidement qu'elle n'en revenait pas. Là, je suis là, oh, « ouais. Ça fait mal. »
Mais ça fait mal fort. Vite, ça fait mal
je
fort.
Je peux comprendre l'épidurale. Moi, des fois, avoir eu des accouchements plus longs, je l'aurais pris, je dirais.
Mais tout est une question de choix. Je me dis, plus t'en sais avant, plus tu partages avec ton compagnon, ta compagnonne, de comment que ça va se passer, tes souhaits. Puis je me dis, quand arrive dans l'intensité d'un moment fort, d'un moment dur, d'un moment de découragement, bien, la décision en se fait en connaissance de cause. Tout simplement. Vraiment. Mais c'est de la préparation. Puis des fois, je me dis, on dirait que, tu sais, la préparation. Moi, je suis manifesteur, generator, je suis une fille de feu, tu sais, dominée par mon sacral. Fait que la préparation, ça fait pas partie de ma génétique, pas une minute, là. Je suis gémeaux, c'est ma pleine lune aujourd'hui. Mais
oh my God! C'est parfait!
Des fois, tu sais, on part en tournage maintenant. Alors, mon chum me dit, ben, c'est parce que t'as, faut qu'on le prépare, faut qu'on prépare le matériel. On va le préparer là-bas. Moi, c'est ça. Mais tu sais, se préparer, c'est un enseignement aussi. Puis dans la préparation, il y a du beau. Mais puis dans la préparation, on n'égale pas rigidité.
Non.
Fait que moi, c'est ça qui me fait du bien.
Oui.
Ouais.
En fait, c'est de la connaissance. Moi, je vois vraiment la préparation comme l'ouverture de possibilités.
Mm-hmm.
Tu peux, ouais. Tu vois, mais c'est pas d'être dans de la rigidité parce que sinon, si tu t'attends à ce que ce qui est écrit dans le livre se passe dans la vraie vie, là, tu es dans de la rigidité, ça ouais. Se peut que c'est pas ça qui se passe. Tu sais? Fait que dans toute l'histoire de notre vie, c'est comme ça, autant dans la maternité que dans l'entrepreneuriat, tu sais.
Ouais.
Puis, fait que là, tu as eu ton deuxième. Coco ouais. d'amour.
Il y a 18 mois.
De méga portail.
Mm-hmm. Puis le deuxième... Oui, vas-y.
Non, vas-y. Le deuxième?
Ben, le deuxième, tu sais, dans ce portail d'ouverture-là, lui, il m'a vraiment, vraiment ramené... Tu sais, le premier, ça a été de m'écouter. Puis le deuxième, ça a été l'ouverture des possibilités. C'est-à-dire de ne pas faire comme la norme. Mm. Donc, c'est vraiment là qu'il y a eu beaucoup de détachement par rapport au conditionnement, par rapport au « il faut », par rapport aux règles. Nous, on a décidé de déménager dans un rang. On fait nos légumes. On a commencé notre production animalière. Puis, tu sais, pour nous, c'est un effort de dire, là, on n'a rien, il faut aller à l'épicerie. Tu sais, là, c'est... Écoute-moi, ça me gosse aller à l'épicerie, là. C'est un combat, là. Tu sais, je rentre à l'épicerie, là, j'ai l'impression que je suis une guerrière. Là. Je suis en combat contre la société. Là. Non, mais j'exagère.
Mais oui, mais c'est vraiment ça. L'espèce de retour aux éléments puis à la terre. Tu sais, des fois, je vais dans la neige nu-pied, mais pour moi, c'est ça aussi.
Ouais.
C'est d'apprendre à se nourrir. Et quand on apprend à se nourrir puis qu'on sort du système prédateur, mm-hmm. c'est un système prédateur.
Ouais.
Ben là, quand il faut que tu retournes dans le système prédateur, là, t'arrives à la guerre.
Ouais. Mais tu sais, toi, ton podcast me fait du bien pour ça. Tu nous dis, tu t'amuses dans l'astral, tu t'amuses. Fait que là, des fois, moi, je me dis ça. Tu sais, ces mantras-là qu'on se dit dans notre tête, là, comme « Ah, là, ça me tente pas d'aller à l'épicerie, je vais être en guerre, tombe tout le monde. » Puis en plus, moi, je rentre dans une épicerie puis je vois du bleu devant les visages des gens. Je suis comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Fait que là, j'ai encore plus le goût d'être en guerre. Fait que là, mon chum puis moi, fait « Non, t'as peu, on sort 2-3 jokes. » On va voir des commis d'épicerie, ils nous trouvent drôles, c'est bon. Mais c'est ça. J'ai tendance des fois à être en guerre. Fait que là, je me dis, attends, comme, ramène-toi dans le plaisir, ramène-toi dans le fun, prends-toi pas au sérieux. C'est tout va bien.
Est-ce que ton sacral, il est tellement beau. Parce mais que c'est... là, t'es en dissonance avec ton sacral. Fait qu'il te le dit.
Il me le dit. Puis. Je voulais dire quelque chose par rapport à la société. Je ne sais plus.
Ça va revenir.
Ça va revenir.
Ouais. Fait que là, il y a un grand retour dans votre... Tu sais, là, tu as eu un retour vers la maman.
Oui.
Tu as tout lâché ta pratique à toi.
Oui.
Tu as décidé de fusionner doucement avec ton chum. Sûrement que ça a été en douceur, tu sais.
Non.
Puis là, René, t'as fusionné.
Oui, ça a été en douceur.
D'un coup. Oui, c'est ça.
En douceur.
J'étais comme, il y a sûrement un processus derrière... Oui. Tu as eu tes enfants.
Oui.
Là, vous êtes vraiment dans un retour aussi aux sources,
oui.
aux éléments, à l'essentiel, au minimaliste. Mm-hmm. Vraiment, là, parce que c'est du minimaliste.
Ben, c'est
ça. Faire un jardin.
Ouais,
mais ça, les gens ne comprennent pas ça. Mais c'est vraiment du minimalisme.
Puis des fois, le mot nous fait peur parce que, tu sais, quand tu veux être autonome de cette façon-là, ben ça prend de l'équipement de jardin. Fait que là, moi, des fois, je capote. Je suis comme, mais là, on n'est pas minimaliste. Là. La remise est pleine de bêches, elle est pleine d'outils.
Mais c'est nécessaire!
Mais ça, c'est nécessaire. Fait que là, moi, je suis comme en conflit. Là. Ça fait deux, trois semaines que je vis ce conflit-là. Là, je débarrasse du linge des enfants qui font pu, je débarrasse les jouets. Mais là, je suis comme, ben t'as peu, je veux encore ces jouets-là. Puis là, le bloc, les camions. Ben, les autres, j'y veux encore. Ils ont chacun le petit camion qui... Il glisse dessus dans la maison. Je suis comme, ben, non, faut que je le garde. Mais, tu sais, entre minimaliste, parce que, tu sais, le minimaliste Pinterest, la belle photo blanche,
oui, ça, c'est
du bac à jouets, c'est ça.
Moi, j'appelle ça, c'est de l'asceptisation. Je suis pas capable de le dire. Il ne sort pas de bon. Mais il y a une différence entre avoir l'espèce de décor blanc tellement épuré que tes enfants, ils n'ont même pas. T'as quand même, t'habites dans un rang.
Oui.
Okay? Moi, j'appelle ça que mes planchers, quand ils sont propres, c'est parce que je viens les laver.
Ouais, c'est
l'heure. Après ça, ils sont sales pendant une semaine.
Ça fait. Et moi, là, j'ai besoin de trois bas de soude de rechange parce que les enfants vont dans le poulailler.
Oui, c'est dégueulasse. C'est
j'ai des animaux
c'est des enfants
en liberté.
De la forêt. C'est de l'enfant de la forêt. Nous, ouais. On appelle ça les enfants sauvages.
Ils rentrent bruns. Ils rentrent dans la maison bruns.
C'est comme c'est des petites bêtes sauvages. Ils reviennent. Ils s'en vont. Mais ça, c'est... Tu peux pas avoir du minimaliste de « j'achète juste une paire de soutes de neige ».
Non, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui me rentre dans la tête. Mm-hmm. Mais c'est vrai.
Parce que, non, c'est d'être... Le minimalisme, pour moi, c'est d'optimiser ta vie.
Ouais.
D'optimiser ton quotidien. Mm-hmm. Si, pour toi, d'optimiser, parce que pour moi, admettons, c'est vraiment... Ils ont du stock d'extérieur, là, sûrement plus que leurs vêtements.
D'intérieur.
D'intérieur.
Ouais.
OK. Mais c'est des enfants qui sont toujours dehors.
Oui.
Ils en ont besoin.
Oui.
Fait qu'il n'y a pas de minimaliste sur les trucs extérieurs. Mais ils en ont-tu de la paire de bottes d'eau puis des paires d'imperméables, des gants, des mitaines, des ci, des ça? Parce que René, je passerai pas ma journée à faire juste du lavage.
Ben non.
C'est pas ça, optimiser ma vie. C'est pas ça, être sereine. Fait que ouais. C'est intéressant parce que on a associé le minimalisme à aseptiser tout.
Ouais.
Que ça doit être blanc, épuré. Mais puis c'est pas ça la vie.
Puis
tu vis pas dans une salle chirurgicale.
Non.
Tu vis dans la vraie vie.
Puis le minimaliste, il va s'adapter à chaque famille, que tu aies 1 ou 5 enfants, que tu sois en école maison ou que tes enfants aient à l'école, que tu aies, tu sais, nous, on a 2 entreprises, mais je suis mère à la maison. Tu sais, ça dépend du moment dans notre vie, on est où. Puis tu peux pas suivre une étiquette. Tantôt, tu as dit, je te demanderai pas t'es qui, tu fais quoi dans la vie. Puis le minimaliste, des fois, je me dis, c'est ça aussi. Tu peux pas être minimaliste comme on te l'enseigne d'une influenceuse ou une personne que tu suis parce que ta famille, elle est différente.
C'est sûr qu'être minimaliste, tu habites à Montréal ou minimaliste, tu habites dans un rang, c'est pas le même minimaliste.
Mais non. Mais c'est beaucoup dans la façon d'être, c'est ce que tu as nommé tantôt, d'être, comment j'organise mon temps, les choix qu'on fait pour la famille, les activités qu'on dit oui, les activités qu'on dit non. C'est, ouais.
Ouais. Mais c'est pas dans les biens matériels. Mais on a tellement associé le minimaliste à qu'est-ce qu'on possède. Mais moi, c'est plus, est-ce que je l'utilise? C'est quand la dernière fois je l'ai utilisé.
Ah, ouais.
Mm-hmm. Moi, c'est ça. Est-ce que c'est utile à ma vie ou ça vient encombrer ma vie? Est-ce que c'est lourd ou léger? OK. Parce que, tu sais, j'ai des choses dans ma cuisine, admettons, mais je cuisine beaucoup.
Oui.
Là, tout le monde pourrait trouver tous ces accessoires de cuisine tellement stupides à avoir parce que, tu sais, il faudrait que je sois minimaliste. Mais pour moi, ça sauve ma vie. Ça me permet. J'ai une machine à pain parce que des fois, ben, j'aime ça faire la miche dans le gros creuset dans mon four.
Ouais.
Mais c'est pas toutes les soirs que j'ai le temps de pétrir mon pain, OK?
Non.
Pas tous les matins que j'ai le temps de me taper 1h30 de faire chauffer mon pain, là.
Mm-hmm.
OK? Fait que la machine à pain, là, c'est extraordinaire!
Ouais.
Fait, il y a ça aussi. Vous avez le droit d'optimiser votre vie en ayant un minimaliste extrêmement conscient parce qu'il n'y a rien de meilleur que du pain fait maison, là.
Non.
Que ta machine à pain l'ait faite ou que tu l'aies pétrie toi-même,
il est bon.
C'est aussi bon. Fait que ça, vous avez le droit. C'est pas, tu sais, puis c'est ça que j'aime aussi. Tu parlais des deux filles de comme à maison.
Ouais.
Mais ils amènent ça beaucoup.
Oui.
On est toutes uniques. On a toutes des situations uniques. On a toutes des enfants qui sont uniques, des familles qui sont uniques, des conjoints qui sont uniques.
Ouais.
Et là, il faut tout amener ça, tu sais.
C'est un travail parce que, tu sais, dans la consommation de médias sociaux, je mets tout confondu, plateformes de podcasts, les Patreons, etc., vient des inspirations. Mais dans l'inspiration, on ne peut pas se copier. Puis, tu sais, des fois, je suis encore fatiguée, puis je suis comme, mais, tu sais, Norbert a 18 mois, come on, je serais supposée avoir de l'énergie.
Non.
Ben,
moi, normalisons le fait que tu es encore en postpartum, OK? Moi, je pense qu'on est fatigué, puis ça, il faudrait vraiment le normaliser.
Mm-hmm.
Récupérer le sommeil, juste le sommeil d'une grossesse
mm-hmm.
et d'un postpartum. Je pense que ça prend 5 ans.
OK.
Bon. Fait qu'à chaque enfant, pour moi, je refais un reset de j'ai le droit d'être fatiguée.
Mm-hmm.
J'ai le droit d'être fatiguée.
Ouais.
J'ai le droit d'être pas performante. Puis j'ai le droit que cette journée-là, my God, mon cerveau, je ris. Là. Je suis. Des fois, là, je suis là. Aïe, aïe. J'ai des. L'espace-temps a disparu. Mm-hmm. Je sais pas si ça te fait ça. Là, t'es là. OK, j'étais où? Qu'est-ce que j'ai fait pendant 2 heures?
Non. Mais
c'est... Fait que, puis là, t'auras beau Sur Instagram, ça apparaîtra pas si la personne ne le dit pas.
Ben non.
Sur son podcast non plus.
Mm-hmm.
Mais tu sais, puis souvent, moi, là, mon chum, il me dit, hey « Jen, ça n'a aucun sens, tu fais jamais de sieste. Tu as des nuits exécrables, tu dors pas le jour. » Il dit, « Toi, c'est même pas négociable. » Il dit, « Tu devrais faire une sieste par jour. » Là, je te dis, « OK. »
Mais,
mais dis-moi personne si je m'a jamais dit ça.
Ouais, que tu devrais dormir, mais...
Ouais.
Tu sais, il y a deux choses dans le repos. Il y a se reposer, puis il y a se réénergiser.
Et moi, j'aime mieux me réénergiser.
C'est ça. Fait que, oui, une sieste. Mais moi, une sieste dans le milieu de l'après-midi, ça prend 2 heures à m'en remettre après.
Ah non, puis là, je suis toute déphasée.
Oui.
Je suis en train de mourir. J'aime bien mieux me coucher à 7h30 en même temps que les enfants. Parce que je sais que leur sommeil est optimal en début de nuit. OK.
Oui.
C'est mes biohacking. De même, je biohack mon sommeil que faire une sieste, tu sais. Mais je sais que mon sommeil est exécrable. Par contre, j'ai vraiment attention parce que je ne me remettrai pas à faire du sport comme une déchaînée. Je sais que je n'ai pas de sommeil. Tu sais, il y a des trucs comme ça où mon corps il est déjà épuisé. Je ne vais pas aller le pousser plus.
Exact.
Je vais aller faire de la natation. Moi, j'appelle ça, je fais la baleine dans l'eau. Là.
Tu sais,
des fois, ben, je nage, je fais des 50 mètres. Je fais un aller-retour, je chill.
Ouais.
Un aller-retour, puis là, des fois...
Là, des fois, tu tournes sur toi-même.
Ouais, puis là, un moment donné, je suis comme, ah, oh, ben, c'est bien, j'ai fait 500 mètres en 1 heure. Quand d'habitude, je fais au moins 1 kilomètre, tu sais.
Ouais.
Mais c'est pas grave de bouger.
Ouais. T'as bougé.
Un année, j'étais trop fatiguée. J'étais pas capable de courir plus que 5 minutes. Mais j'allais courir 5 minutes.
C'est tout.
Pas grave.
Puis c'est correct.
Après ça, je marchais. C'est tout.
Ouais.
Je marchais tout seul. J'avais du silence.
Moi des fois, je marche dans le cours. Ben, mon terrain est grand, là. Quand les enfants vont prendre une marche, on va virer en arrière des arbres, le garage, puis on vient. C'était une belle marche, mes amours. Hein?
Mais c'est ça de l'exercice physique normal d'une maman. C'est pas de se remettre au crossfit, là, puis au super entraînement pour maigrir.
Oui, mais c'est des dogmes à changer, c'est des pensées à changer. Puis c'est, des fois, c'est un regard en arrière donc, qui me fait suffoquer. Je fais « Hey, mais je suis plus capable! » Ou le regard des autres, je fais « Mais je suis pas comme elle! » Mais quand tu fais un retour sur toi, là, c'est correct. C'est comme... Puis l'activité physique, de toute façon, aller faire une activité physique intense, quand tu es déjà fatigué, ben tu es en risque de blessure ou juste de retarder encore. Oui. Et puis, mais là, il faut que je le dise. Entre les deux enfants, je me suis fait dire, mais c'est parce que tu sais, t'as pas perdu ton poids de grossesse, hein, t'as encore un ventre. C'est aussi c'est la perte de poids, de grossesse, c'est du gros fucking n'importe quoi.
C'est... Oh mon Dieu, pouvons-nous en parler?
On peut.
Oui,
faut en parler.
Oui. OK. S'il vous plaît. Moi, juste pour vous dire, là, dans ma vie, j'ai toujours pesé 125 livres. Je pense depuis que j'ai 14 ans, j'ai toujours pesé le même poids.
Mm-hmm.
Que je m'entraînais beaucoup, pas beaucoup, que je m'empêchais de manger, peu importe, je pesais 125 livres.
Okay? Yeah.
Première grossesse, 205 livres. Là, tout le monde me dit...
J'allume. <là.
rire> J'arrive à 205 livres. Là, tout le monde me dit, « Jen, il faut que tu perdras jamais ton poids de grossesse. » Puis là, moi, j'ai regardé, puis j'étais comme... Mon corps, s'il a eu besoin de ça, c'est pour une raison. Okay? Mm-hmm. Là, je veux vraiment expliquer aux mères.
Oui.
Premier bébé, j'ai pris 70. Non, 80 livres. 80 livres, ça n'a pas de bon sens. C'est impressionnant. J'ai presque doublé mon poids, OK, juste pour vous dire. Puis, entre les deux enfants, j'étais rendue, parce que Léo, je l'ai eu collé, je suis retombée enceinte à 6 mois. Fait que j'avais peut-être baissé à comme 160. OK, à peu près, là, avant de retomber enceinte de Léo.
Okay.
Puis là, j'ai atteint comme 170. Fait que j'ai accouché de Léo, 170. Et là, je suis tombée dans l'épuisement total.
Okay?
L'épuisement total dans toutes les sphères de ma vie. Parce que j'étais entrepreneur, je n'étais pas soutenue, rien. J'étais épuisée.
Et j'ai pesé 110 livres.
Ugh.
En moins de 6 mois. Mais j'étais pas au régime, là. Genre, j'étais juste épuisée. J'ai crashé. Fait que j'ai... Là, tout le monde me félicitait.
Ah.
OK? Tout le monde a dit, « Oh my God, t'es donc bien hot! T'as perdu tout ton poids de grossesse après 2 bébés collés. Tu sais, ils ont 15 mois de ça. Hey, » Tout le monde... Moi, là, j'étais à veille de mourir.
Parce que t'étais bien.
J'étais pas bien dans mon corps. J'étais maigre comme un pic. J'ai tout perdu ma masse musculaire, ça, tu comprends? Moi, je suis une athlète. Je capotais ma vie parce que j'étais là, « Chris, j'ai perdu tous mes muscles. J'ai 30 ans. Ça va être super difficile parce que je le sais. Mm-hmm. » J'étais là, « Ça va être tellement difficile de retrouver mes muscles. » Parce que moi, ça a été toujours ma fierté. J'étais une femme musclée. Okay?
Même chose, oui.
J'aimais ça, être musclée. Je faisais de l'haltérophilie puis j'étais comme, « Yeah! » Tu sais, je levais, tu sais, je benchais, je faisais des grosses charges puis je me suis jamais blessée, tu sais. Fait que là, moi, je suis là, « Hey, ça va pas bien, ça va pas bien. » Tout le monde, « Wow! Wow, t'es donc bien hot! T'as maigri! » Là, mon père, ma belle-mère, « Oh my God! » Je tombe enceinte de ma 3e. Parce que moi, ils ont 3 ans et 3 mois de différence, les 3. Et là, tout le monde me dit, « Oh non, tu venais juste de perdre ton poids de grossesse. » Puis moi, dans ma tête, j'étais là, parce que moi, je sais pas comment je vais réussir, là. Je suis épuisée. Je suis fatiguée. Je suis dénutrie. Je sais plus où... Tu sais, je sais plus quoi faire, là. Tu sais, moi, dans mon être, j'étais en détresse. Puis tout le monde parlait de mon poids. Là, j'étais là, vous me niaisez. Puis là, quand tu essaies de le dire, personne ne t'écoute, hein?
Mais non.
Ils se bouchent les oreilles. La, la, la! Là, t'es là, non, je suis fatiguée. Genre, je sais pas comment je vais faire. Mon 2e dort pas. Hein? Comment je vais faire pour avoir un autre, tu sais? Parce que moi, Romane, c'est une belle surprise. Fait que... moi, je capotais. Puis, j'ai pas tant pris de poids à Romane, mais j'ai jamais été capable de le perdre après. Mm-hmm. C'était vraiment spécial.
Uh-huh.
Après Romane, je suis restée à 150 livres. Je suis restée à 150 livres. Là, puis là, j'ai essayé de m'entraîner, j'ai essayé de faire des régimes. Ça bougeait pas. Là, je me suis dit, on reste à 150, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. C'est ça qui est ça. Et c'est quand j'ai laissé le père de mes enfants, tout mon poids, je suis revenue à mon poids normal, d'un coup, j'ai rien fait. Je suis revenue. Là, j'étais là, hey, c'est drôle le poids, arrêtons de faire des régimes.
Mais.
Fait que bref, puis là, fait que c'est ça. Puis là, je suis enceinte.
Oui.
J'ai pris 3 livres.
À 6.
OK? J'ai pris 3 livres, là. Il se passerait. Je ne me dénutris pas, je mange comme toutes mes autres grossesses.
Ça veut rien dire.
C'est ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, tout le monde est comme, c'est impossible, tu sois enceinte de 25 semaines. Je suis comme, oui.
Ouais.
C'est juste que là, je n'ai pas pris de poids. C'est sûr que je te dise. Mais je n'ai rien changé dans mes habitudes.
Ça aussi, c'est une habitude de changer l'habitude des gens, de caractériser la personne à son poids. À la 2e grossesse, moi, j'ai refusé tous les poids. On ne m'a jamais pesé avant ni après.
Moi, la sage-femme ne m'a jamais pesé. C'est moi, Armani. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Je vais être trop petite.
Oui, puis c'est correct comme quand toi, tu veux comprendre.
Je me suis pesée sur ma balance, puis j'ai fait. Parce que tout le monde me disait, ben non, t'es bien trop petite. Là, j'étais là. Première grossesse, là, il y a 5 ans, tout le monde disait que j'étais une obèse morbide. Puis là, j'étais trop petite. Là, je suis comme, gérez-vous, là.
Ouais. Gérez-vous, s'il vous plaît.
Normalisons le poids, que tout le monde est différent, puis chaque grossesse est différente.
Ben, tu l'incarnes vraiment bien.
Hey, c'est 80 livres, là, 3 livres. C'est n'importe quoi, là.
C'est quelque chose. Mais vient quelque chose qu'on porte aussi à ce moment-là, dans la vie, dans la personne qu'on est, dans les charges, les responsabilités, qu'on soit entrepreneur ou employé. Reste que le poids, je pense qu'il peut venir avec tout ce qu'il y a autour. Puis moi, je suis... Le cycle dans la saison, on n'a pas envie de manger les mêmes choses à l'intérieur de notre cycle menstruel. Puis, tu sais, comme là, ton bébé, peut-être que c'est à la fin que, oups, tu sais, de 30 à 40 semaines, tu vas avoir une expansion très, très grande. Puis...
Tant mieux, il va prendre... Moi, je dis, mon corps va lui laisser la place qu'il a besoin.
Au bon moment.
Oui, faut arrêter de vouloir tout normaliser.
Tu sais, t'as pas été une meilleure mère quand t'as perdu ton poids.
Mais non.
Puis t'as pas été...
Et souvent, les mamans qui perdent leur poids vite, c'est parce qu'ils s'épuisent.
Ouais, beaucoup.
Moi, je puis trouve que c'est un signe de détresse, là.
Ouais.
Et d'épuisement et de fragmentation des familles, là.
On a tellement besoin de se nourrir. T'sais, moi, j'allaite encore bébé. Puis
mais oui, je l'ai petit encore.
Ben, il y a 18 mois. Si j'étais revenue sur le marché du travail, je l'allaiterais plus, mon enfant.
Oh,
je le sens, j'ai soif, j'ai faim. Puis je le vois même, des fois, j'ai des goûts alimentaires que j'ai, il y en a que j'en ai pas. Puis s'écouter par rapport à ça, autant quand on est enceinte, comme toi présentement, selon les trimestres, c'est sûr, tu vois une différence. Là.
Oui, puis comme là, ces temps-ci, je suis beaucoup, beaucoup carnivore.
Ouais.
J'ai besoin, puis de la bonne viande, là. Mais moi, pas de la viande de supermarché, là. Mm-hmm. Moi, je m'en vais à mon éleveur, là, puis il faut que j'aie ma viande là, élevée dans le champ, là, puis que sinon, elle me roule dans la bouche. Je ne suis pas capable de manger du poisson. D'habitude, je suis capable de manger du poisson. Là, ça me roule dans la bouche.
OK.
Puis je suis très fruits et légumes. Mais vraiment comme très la base. Là.
Mm-hmm.
De revenir à la base des potages. Parce qu'il fait froid. Faire des potages chauds.
Ça serait chaud.
Fait que, puis des infusions. J'ai jamais bu autant de breuvages chauds. C'est spécial. Okay. C'est la première fois que je suis vraiment enceinte en hiver.
OK.
Parce que moi, j'ai accouché deux fois fin septembre.
Oui.
Une fois fin juin.
Puis là, lui?
Là, je vais fin mars.
OK. Fait que là, je vais être vraiment dans mon,
ma nidification en hiver. Ouais. Tu sais, c'est vraiment une nidification en hiver. C'est la première fois que je vais vivre ça. Fait que... Là, j'étais là, oh, je vais-tu rentrer dans mon manteau d'hiver? Ça m'est jamais arrivé, ce truc-là.
Une bonne couverte. Non.
Ben ouais, c'est pas grave. Ben, mais.
C'était les manteaux de fil.
Ben, mon manteau, il s'ouvre par en bas. Je me suis dit, au pire, j'aurais abandonné dans l'air. Mais.
C'est pour ça que tu ne grossis pas tout de suite. C'est pour ton manteau.
Ça. Comme ça, je peux continuer à faire du ski de fond. Moi, j'étais là, mon bébé, il me dit, go, tu vas avoir une belle saison de ski de fond. Fait que. J'aime ça. J'habite à côté du Morford. Ce qu'ils font ici, c'est magnifique. Là. Fait que c'est ça. Mais c'est important de parler du poids puis de la perte de poids. Parce qu'on on shame les mamans qui, au contraire, prennent soin d'elles. Souvent.
Ouais.
Parce que c'est pas normal de perdre son poids aussi vite. Mais c'est pas normal, là, mais c'est un indicateur de...
Ça va pas bien.
Ouais, exactement. Selon moi. Puis... On félicite celles qui sont tout maigres.
Ouais.
Et quand pourtant... on dit... Ouais, puis tu dis, ça se peut pas qu'en 2022, 2023, on est encore...
Ben, ouais. Ça peut... Ben, tu sais, comme toi, tu disais, t'es une fille musculaire, t'es une fille d'entraînement. Moi, tu sais, je faisais du vélo, j'étais une fille, tu sais, mes cuisses, là, c'était magnifique, les rondeurs de mes cuisses puis de mes fesses, là. Puis là... Si j'ai reçu des commentaires, oh, c'est beau, comme t'as maigri. Je suis comme, mais j'ai plus de masse musculaire. Au contraire, pour moi, de passer du sol à la station debout, je dois le faire en étapes. Complimente-moi pas sur mon poids, j'ai de la misère à me lever.
C'est comme ça, oh, mes muscles!
C'est encore un reflet de la société, complémenté sur le beau, complémenté sur qu'est-ce qu'on voit, mais c'est du small talk, ça se glisse bien dans les conversations, les gens le font avec une bonne intention. Des fois, je me dis, ben, je veux juste choisir avec d'autres personnes avec qui je vais parler.
Tu peux parler d'autres choses.
On va parler d'autres choses.
Moi, je me dis, viens faire de la bouffe chez nous, on va jaser d'autres choses que mon poids.
Vraiment. Ben, on n'aborde pas ce sujet.
Ouais, mais on devrait jamais parler du poids de la femme enceinte.
Non.
Puis ça devrait être... C'est comme, oh mon Dieu, t'as une grosse bedaine. On voit arriver ton bébé avant toi. Tu sais, moi, je me suis fait dire ça. Mais... Fait que... Parce que j'étais vraiment... C'était impressionnant, là, tu sais, la transformation. Même moi, j'étais là, my God, tu sais, j'avais enflé de la face de partout, mais c'était correct, c'est ça qui était requis à ce moment-là.
Ouais.
Fait que faut pas. Notre corps, c'est exactement ce qu'il doit faire.
Ouais.
Faut arrêter de le contrôler.
Oui.
Ouais. Faut le nourrir de bons aliments. C'est sûr, faut le nourrir de bons aliments.
Oui.
Mais faut arrêter de le contrôler.
Il faut s'écouter, c'est ça.
Ouais.
Tu peux. t'es l'enfant sauvage, tu disais, toi, c'est tes petits-enfants sauvages, tes enfants chez vous. Quand tu laisses vraiment une personne évoluer sans lui mettre une étiquette, un chiffre, sans lui mettre une case, il y a vraiment de la magie infinie, puis il y a de l'expansion qui peut se créer vraiment beaucoup. Fait que de dire à une mère son poids, quand peut-être qu'elle a des inquiétudes face à son enfantement, elle a connu moi qui ai eu un enfant par césarienne puis qui a tellement souffert, puis là, elle a peur que ça y arrive. Mais là, elle doit le nommer, ça. Comment tu te sens? Comme, ben, cette histoire-là, c'est à elle, c'est pas toi. Comme, t'es-tu informé sur les enfantements de ta mère, de ta grand-mère? Tu sais, ça, des fois, ça peut nous en dire. Moi, ça n'a rien dit. Là. Ma mère et moi, on n'a pas eu du tout les mêmes enfantements. Là, mais...
Moi non plus.
Des fois, ça veut dire de quoi? Des fois, pas. Fait que parlons à la maman. Comment tu te sens? As-tu des questionnements? Est-ce quelque chose qui te ferait du bien à toi? Tu voudrais-tu un massage? Tu voudrais-tu suivre des cours de yoga prénatal? Tu veux-tu une doula? T'sais, ma mère m'a acheté une doula. Elle m'a acheté une doula. Elle a pris tout son budget. Elle a dit, va voir une doula.
Oh, wow! C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à une maman.
C'est extraordinaire. Des fois, je me dis, en posant une question différemment, « Oh, t'as pris beaucoup de poids, t'as pas pris beaucoup de poids. Est-ce que tu dors bien dans ta grossesse? Est-ce que, tu sais, si j'irais faire les dodos de tes enfants pendant 2-3 nuits, ça te donnerait-tu une chance? » C'est la même question en t'as l'air fatigué et « Veux-tu venir faire les déjeuners deux matins cette semaine? » Tu sais, c'est ça.
Ah, mais ça, je me suis fait tellement dire « Oh mon Dieu, pauvre toi, t'es épuisé. » Non, cette phrase ne sert à rien. Viens, prends Léo la nuit. Dors pas pendant la nuit, moi je dors.
Puis,
toi, tu dors pas une nuit. C'est pas grave. Moi, je récupère ma vie.
Ouais.
Mais personne voulait. C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, ben, toutes les gens qui ont des enfants différents, hein? Puis les troubles de sommeil, ça fait d'un enfant différent.
Ah, OK, un enfant différent comme ça.
Oui, parce que, ah, mon Dieu, moi, personne n'a voulu garder Léo
la nuit
parce qu'il ne dormait pas.
Oh.
Là, j'étais là, mais il dort s'il est collé sur toi. Fait que, dors avec dans...
Mm-hmm.
Il se réveillera 3-4 fois, tu lui donneras un biberon. Mm-hmm. Mais moi, j'ai besoin de dormir. Et là, tu imagines, puis ça, c'est juste d'un problème de sommeil. Imagine quand c'est des parents de vrais enfants avec des besoins qui sont à vie, là, que c'est pas temporaire. Là. Un problème de sommeil, à un moment donné, ça se résolve. Là. C'est comme, il y a quelque chose, ça va, on va arriver à un moment donné à une nuit complète. Là, mais t'imagines ces parents-là, comment ils sont abandonnés?
Mm-hmm.
Parce que leurs enfants, c'est pas des enfants normaux, puis tout le monde a peur. Si t'es pas dans le petit cadre, ça marche pas. C'est comme, tout le monde s'enfuit. Là, t'es là, mais non, au contraire. Toutes ces mamans-là, c'est le village au complet devrait venir
autour.
Ouais. Faire viens, maman, on te soutient, là.
C'est ça, on sait que c'est autour de toi.
It's gonna be a hell of a ride, mais on va être en gang. Tu sais, comme, c'est, mais tout est.
Mais c'est
ça, on est fragmenté.
Ouais, se demander d'être soutenu par des gens qui savent pas ça veut dire quoi non plus. Tu sais, je l'ai espéré il y a quelques mois. Puis d'élargir mon cercle, d'être soutenue. Puis j'ai fait, ah, mais ils ne savent pas eux-mêmes. Comment je peux le demander? Ils ne savent pas. Mais c'est ça. En s'aidant, en s'ancrant entre nous, en transmettant maintenant aux nouvelles mamans, aux générations futures, on va recréer quelque chose de beau.
Puis autant les petits gars. Tu sais, il y a une transmission beaucoup à nos petits gars. Parce que moi, j'en ai deux. Toi, t'en as deux et trois. Genre,
t'en as trois. Il vit à temps plein chez nous.
C'est ça. Fait que c'est trois. Hein? Fait que de tout transmettre ce savoir-là autant aux petits garçons qu'aux petites filles, c'est extraordinaire.
Oui.
Parce que ça va faire une société qui est beaucoup plus sereine pour la femme.
Oui.
Plus tard.
Vraiment. J'y crois. C'est... Puis, tu sais, des fois, j'allaite la nuit, puis je suis comme, oh, je suis fatiguée. Puis là, je fais, ah, non, t'as un peu, il y a une autre femme dans le monde en ce moment qui allaite.
Ah, il y en a plein, hein?
Fait que là, je fais juste comme, m'imaginer que ce soit une amie que je sais qui allait de son enfant ces temps-ci ou quelqu'un que je connais pas, puis je vois d'autres décors de chambre, je vois d'autres mamans dans ma tête, je fais « Ah, on est ensemble, on est unis. » Puis là, je vois, tu sais, je vois le on nourrit, nous, la mère, l'enfant, à notre sein, mais on est nourri aussi de d'autres choses. Et pendant ce temps-là, on va nourrir, on va se connecter. Fait que je me dis, c'est magique. Juste de switcher la pensée de « Ah, oh, faut que je me lève encore une nuit. »
Ah ouais, là, t'es là.
T'sais, je dis pas que je le fais toutes les nuits, vraiment pas. Là. T'sais, une nuit sur quatre, j'arrive à avoir cette belle pensée-là. Mais quand je l'ai, elle est si forte que des fois, le support, l'entraide, l'aide qu'on demande là, si je ne l'ai pas physiquement, petite maman vient m'aider souvent, mais ah, là, c'est limite. Et sa vie. Ah, là, sa vie.
Aussi.
Fait que quand je ne l'ai pas, je me dis, OK, je vais aller le chercher ailleurs. Fait que c'est peut-être pas quelqu'un qui va être présent là dans ma maison, mais dans l'énergie.
Mais c'est, tu vas exactement puiser à l'intérieur de toi. C'est ça. Beau.
Ouais.
Puis, tu sais, moi, à force de ne pas dormir, au début, j'étais dans la confrontation, la résistance avec Léonore. Okay. Puis, à un moment, je suis venue dans la reconnaissance.
Ouais.
Parce que ces moments-là, ben, autant que c'est souffrant. Oui, je sais, ça fait full longtemps qu'on parle. Je sais, là, on va rapper bientôt. Mais autant que ces moments de souffrance-là, puis d'épuisement la nuit, c'est des vortex aussi. C'est des portails la nuit.
Ouais.
Et quand on réussit à passer par-dessus tous nos conditionnements qu'on doit dormir la nuit, là, je ne dis pas ici de ne pas dormir la nuit, OK?
C'est pas, ne le faites pas volontairement.
Si vous pouvez dormir, dormez. Mais si tu es dans cette période-là de la vie où ben, tu es en train d'allaiter, où tu donnes le biberon, où tu es en train de gérer le 10e rhume de l'année, ou la gastro, ou n'importe quoi, OK? Toutes les mères vont se reconnaître. Mais d'avoir ce moment où tu te dis, OK, parfait, c'est mon moment méditatif à moi.
Mmh.
Mon moment de silence.
Mmh.
Moi, je l'ai perçu beaucoup comme ça. C'était mes moments de silence.
Oui, c'est vrai.
Et ça me fait tellement du bien.
Oui.
Tu sais, puis je suis reconnaissante maintenant. Mais ça m'a pris 3 ans de résistance.
À le nommer.
Oui, à être capable. Puis Léonore, c'est ça qui est venu m'enseigner. C'est le silence.
Le silence. C'est vrai. Il y a une magie la nuit dans une maison silencieuse.
C'est comme, hey, tu te berces, là, puis t'es là. C'est moi, je pense que je le berçais parce qu'il était fait, tu sais, il fallait qu'il soit fusionné à moi, là.
Mm-hmm.
Même en ce moment, s'il se réveille la nuit, il faut que j'aille dans son lit.
Okay.
Il me met les pieds dans des endroits où tu peux même pas croire qu'il peut se rendre. Il va rentrer à l'intérieur de mon pyjama, là.
Il va
sortir par le trou de mon chandail. Des fois, je me réveille et je ne sais même pas comment je vais réussir à sortir du lit. Parce qu'il est rendu dans moi.
Il
est dans mon chandail. Oui, parce qu'à un moment donné, je suis fatiguée, fait que je l'entoure.
Quoi?
Fait que là, il rentre dans mon chandail, là, j'ai ses pieds dans mes boxeurs.
Oui. C'est la
lui,
connexion.
Il fusionne. Ah ouais, schlock! Puis il a 4 ans, presque et demi, là.
Il n'est pas petit.
Non, il est gros, là. Tu sais, fait que, tu sais, mais, puis là, tu sais, là, à peu près une nuit sur deux, il fait des nuits complètes, puis sinon, il a besoin d'une fois du réconfort, tu
sais.
Mm. C'est une amélioration extraordinaire.
Ben, ça. Quand on regarde l'amélioration, ça fait du bien de notre parcours.
Juste dire de où on est parti, où est-ce qu'on s'en va. Puis, tu sais, hey, le matin, là, je suis là, hey, Léo, t'es hot, t'as réussi. Oh oui, je sais, j'ai beaucoup pratiqué, maman. Je suis là, oh, oui, on a pratiqué, là. T'sais, il n'arrive pas à s'endormir tout seul encore.
Mm.
Sa petite soeur est capable.
Wow.
Mais c'est pas grave. Ils ont chacun leur chemin. Ils ont chacun leur rythme. T'sais. Fait que c'est ça qui est beau, c'est de les accueillir là-dedans aussi.
Mm-hmm. L'accueil, c'est un beau mot.
Oh oui. Puis on va finir là-dessus. Oui. Merci pour ton accueil. Merci pour cette magnifique conversation. Ça a été magique. Puis comme je disais, si les gens veulent te suivre, je vais laisser sur. Les notes du podcast juste en bas, ton Instagram.
Ouais, merci.
Puis un gros merci pour cette magnifique conversation.
Oh, merci à toi aussi de cette invitation.
Merci, merci, merci.